féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Le cinéaste franco-polonais Roman Polanski, qui a reçu le 28 février le César de la meilleure réalisation pour J'accuse, est devenu un symbole des agressions sexuelles impunies alors qu'il est visé par 12 accusations de viol. Poursuivi par la justice américaine pour abus sexuels sur mineurs en 1977, il est la cible depuis novembre d'une nouvelle accusation de la part de la photographe française Valentine Monnier, qui dit avoir été frappée et violée par lui en Suisse en 1975, à l'âge de 18 ans. Le cinéaste a été arrêté aux États-Unis en 1977 pour avoir drogué et violé une fille de 13 ans, Samantha Geimer, dans la villa de Jack Nicholson. Ayant nié le viol et plaidé coupable de rapports sexuels illégaux avec une mineure, il a fait un mois et demi de prison avant de s'enfuir en France. Plus tard, Roman Polanski avait confié à la presse française son attirance pour les très jeunes filles, selon ses termes. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, il a été assigné à résidence 8 mois en 2009 en Suisse, qui refusa de l'extrader. L'ancien producteur américain Harvey Weinstein a été reconnu coupable le 23 février d'agression sexuelle et de viol. Sa peine devrait être prononcée le 11 mars. Les jurés devaient se déterminer sur le témoignage de 3 femmes parmi plus de 80 qui ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement ou d'agression sexuelle. Ils l'ont jugé coupable de l'agression sexuelle de l'ancienne assistante de production Mimi Alley en 2006 et le viol de l'aspirante actrice Jessica Mann en 2013. Ils l'ont disculpé d'un chef de viol plus grave lié à Jessica Mann et de la circonstance aggravante de comportement prédateur. Après le verdict, plusieurs femmes ayant accusé Harvey Weinstein d'agression sans pouvoir le poursuivre au pénal ont salué le courage des témoins. Le chanteur espagnol Plácido Domingo, accusé aux États-Unis de harcèlement sexuel par une 20aine de femmes, leur a demandé pardon après avoir nié pendant des mois. « J'accepte toute la responsabilité de mes actes », a indiqué le ténor dans un communiqué publié par son agent à Los Angeles, ville dont il a quitté en octobre la direction de l'opéra. Ce revirement est intervenu quelques heures avant que le syndicat américain qui représente les chanteurs d'opéra publie les résultats de l'enquête concluant qu'il avait eu un comportement inapproprié. Dans 2 enquêtes publiées l'été dernier par Associated Press, 20 femmes ont affirmé avoir été harcelées par le chanteur à la fin des années 80. Plusieurs d'entre elles avaient indiqué que leur carrière avait coupé court après qu'elles eurent rejeté ses avances.
Paroles de femmes.
Sandrine Médégan, entrepreneure béninoise, fait le plaidoyer de la consommation et commercialisation de produits locaux. Son organisation Natural vise à promouvoir les entreprises locales qui ne disposent pas de grand soutien pour faire connaître leurs produits. Au Bénin, la loi des finances 2020 oblige les entreprises à délivrer aux clients des factures normalisées comportant des données comme la TVA. Il était ainsi demandé aux entrepreneurs de s'équiper avant le 29 février de la MECEF, la machine électronique certifiée de facturation. Mais une semaine avant la date limite, les députés ont adopté une mesure exemptant les petites entreprises de cet achat jugé onéreux pour elles. Tout d'abord, la réaction de Sandrine Médégan, qui nous parle ensuite du business des produits Made in Bénin.
Les MECEF ou les machines à facturation, c'est des machines mises en service par la Direction générale des impôts pour collecter la TVA et du coup pallier au problème de fuite de capitaux. Du coup, on ne voit pas tout de suite le mal que fait cette machine aux petites entreprises. Donc quand on parle du coût des machines et du délai imposé qui était pour le 29 février avec un coût de près de 500 000 francs, à débourser pour acheter les machines à facturation, c'était un gros coup de massue porté aux petites entreprises qui, pour la plupart, n'ont pas du tout de gros capital. Alors, c'est ce qui fait que ces petites entreprises qui devraient pouvoir parfois s'endetter pour avoir la machine était carrément vouée à la fermeture, en fait. Donc, depuis le 23 février dernier, la DGI a exempté justement ces petites et micro-entreprises à l'achat de ces machines. Et les machines ne sont plus destinées qu'aux entreprises assujetties à la TVA, soit les entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Du coup, c'est un gros soulagement pour nous.
Alors, cela étant, est-ce qu'il vous a été proposé des solutions alternatives pour pouvoir contrôler également les revenus de ces petites entreprises? Entreprise ou non?
Oui, actuellement, ils sont en réflexion parce qu'entre-temps, ce n'est qu'une déclaration sur la confiance. Du coup, il y a effectivement des fraudes par certains entrepreneurs, pas par tous, bien évidemment. Donc, du coup, la machine aurait résolu ce problème. Mais vu la taille des entreprises à qui elle était demandée, cela ne facilitait pas notre expulsion. Donc du coup, la réflexion continue au niveau de la direction des impôts pour trouver une solution plus adéquate.
Alors, vous dirigez l'organisation Made in Bénin Market, hein, qui donc fait la promotion des produits locaux, des entreprises locales. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre activité?
Alors, le Made in Bénin Market est une entreprise qui fait dans la promotion, la distribution des produits locaux et qui fait de l'accompagnement des petits entrepreneurs locaux. Nous avons déjà un showroom qui est mis en place qui accepte les produits faits avec de la matière première locale et proposée par des Béninois résidant sur le territoire ou non. Alors, nous avons un système de contrôle parce que nous mettons plus en avant la qualité des produits et la matière première naturelle. Ce sont des produits qui, dans leur transformation, ne prennent en compte aucun agent chimique.
Vous pouvez nous citer certains de ces produits, notamment?
Déjà Naturol. Naturol, qui est notre entreprise personnelle qui fait dans des chips de fruits séchés. Nous avons tout plein d'autres produits comme du sucre de canne pur. Nous avons du chocolat, du cacao, de la fève de cacao séché, donc du chocolat cru. Nous avons du fromage Peul qu'une productrice béninoise transforme. Nous avons tout plein de produits. Nous avons des transformateurs de piments. Nous avons des transformateurs de tomates.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez notamment pour produire tout cela?
Alors, la principale difficulté que nous avons, c'est l'accompagnement. Parce qu'après, nous recevons tout plein de producteurs qui n'ont pas forcément les moyens de communication sur leurs produits. Ce que nous faisons, c'est vraiment de la communication classique, de la communication avec des moyens de bord, uniquement sur les réseaux sociaux et de bouche à oreille. Donc, nous n'avons pas vraiment les moyens de porter plus haut ces produits locaux-là, en communiquant à plus grande échelle sur ces produits. Donc, c'est plus l'accompagnement qui nous manque pour pouvoir mettre plus en avant nos produits.
Oh. Vous parlez d'accompagnement, justement. Est-ce que le gouvernement béninois a une politique de promotion des produits locaux ou est-ce que vous pouvez espérer, est-ce que vous avez un soutien de la part du gouvernement?
Pour le moment, non, pas encore, parce que déjà, nous n'allons pas rejeter la faute entièrement sur le gouvernement. Mais déjà, c'est la multitude de créations de produits locaux tous les jours qui fait en sorte qu'on a une pléthore de produits qui ne sont pas connus. Il faudrait déjà un travail de recensement de tous ces produits-là afin de porter vers l'État une association qui puisse représenter, n'est-ce pas, les producteurs locaux et permettre à l'État de venir en aide à ces petites entreprises. Pour le moment, malheureusement, nous ne l'avons pas encore fait, donc le soutien de l'État ne nous est pas encore accordé.
Donc, l'on imagine que vous avez beaucoup de femmes, n'est-ce pas, qui travaillent parfois même dans l'informel, hein, dans ce type de secteur. Est-ce que vous bénéficiez de certains crédits intéressants?
Crédit intéressant, non, parce que pour le moment, nous ne pouvons, en tant que petites entreprises, nous n'avons pas de moyens de garantie fiable. Donc, du coup, nous ne pouvons même pas aller vers des grandes banques, parce que c'est des banques qui vous demandent des garanties assez colossales. Pour les entreprises que nous avons, ce n'est pas encore possible. Nous ne pouvons travailler qu'avec l'informel, c'est-à-dire avec les usuriers qui nous prennent plus d'argent en intérêt que nous ne recevons au final pour nos entreprises. Non, nous n'avons vraiment pas de crédit fiable pour tourner nos entreprises.
Pourriez-vous nous citer une forme de soutien concret pour que vous puissiez avancer d'une manière un peu plus efficiente dans votre travail?
Que ce soutien vienne de l'État, des particuliers ou de qui que ce soit, c'est juste l'accompagnement financier. Par exemple, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est un soutien concret. Nous permettre de parler des produits locaux à grande échelle, déjà. Ensuite, cet accompagnement, quand je parle d'accompagnement financier, ce n'est pas forcément pour rentabiliser ou je ne sais pas quoi. Non, c'est plus question de communication. Ensuite, nous avons besoin de cet accompagnement financier-là pour pouvoir développer et produire plus, parce que c'est des petites entreprises qui produisent à sa petite échelle. Même parfois, quand les produits sont de très grande qualité, le producteur n'arrive pas à vous sortir, par exemple, une tonne au mois, parce que sa capacité financière est très limitée. Aussi, les machines de production ne sont pas abordables.
Est-ce que vous avez accès aux grandes surfaces?
Oui, assez oui. On a quand même les grandes surfaces assez accessibles. Mais du coup, le paiement au niveau de ces grandes surfaces revient poser le problème d'accompagnement, de financement, en fait. Parce que lorsque vous déposez des produits en grande surface, un lot de produits de 250 000, 300 000 francs, et qu'on vous dit qu'il faudra attendre 45 à 70 jours avant d'être payé, parfois même plus, vous voyez, par derrière, on n'a pas les moyens de produire plus pour pouvoir supporter en attendant le paiement de cette grande surface-là. Donc, du coup, beaucoup préfèrent faire de la vente directe et du bouche à oreille, vendre à leurs amis, à leurs connaissances, ainsi de suite. Alors, l'accès aux grandes surfaces, oui, mais les conditions d'accès, non.
Alors, les produits locaux africains sont très prisés en Occident. Est-ce que, à travers votre entreprise, vous pratiquez l'exportation ou est-ce que vous l'envisagez?
Nous envisageons l'exportation. Actuellement, ce que nous faisons, c'est juste des groupages. Nous essayons de rassembler des produits que nous envoyons périodiquement, mais comme je le disais tout à l'heure, en très, très petite quantité, parce que les producteurs, même si on en arrivait à un marché d'exportation, les producteurs n'ont pas la capacité, s'ils ne sont pas accompagnés, de produire pour satisfaire la demande.
Au niveau du privé, est-ce que vous n'avez pas entrepris des partenariats avec des entreprises de plus grande envergure, des entreprises notamment de transformation?
Ça, c'est fait, mais pour le moment, non, pas encore.
Alors, vous visez plusieurs événements, n'est-ce pas? Il y a la foire des produits locaux qui se tiendra à Cotonou au mois de juillet.
Oui, le Made in Benin Market, justement, c'est le nom de l'entreprise. C'est le marché des produits faits au Bénin. C'est une foire périodique. Et en juillet, nous en sommes à la troisième édition déjà, où nous présentons quand même un assez grand panel de produits locaux pendant trois jours. C'est la fête du local.
Est-ce qu'il y a des acheteurs étrangers qui viennent à cette foire notamment?
Quelques-uns, oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un problème de communication que nous avons. Du coup, nous ne faisons de la communication que sur les réseaux pour le moment. Du coup, nous en avons quelques-uns quand même.
Alors, qu'est-ce que vous espérez, vous, comme retour d'une telle foire?
Alors, c'est déjà de faire connaître les produits locaux, de pouvoir montrer que localement, nous avons du talent aussi, nous avons de la matière à fournir. C'est de montrer qu'on peut consommer autrement que de toujours chercher à consommer ce qui vient d'ailleurs. Ce que nous faisons chez nous est tout aussi bon que ce que nous prenons ailleurs.
Sandrine Médégan, entrepreneur béninoise militant pour la promotion des produits locaux. Galit Dardashti est issue d'une lignée de chanteurs perses de renommée. Elle est la première femme de la famille à poursuivre la tradition musicale perso-juive en dirigeant l'ensemble féminin d'Ivan basé à New York, terme commun aux langues hébraïques, persanes et arabes, dénotant une collection de chansons ou de poésie. Nous l'avons en exclusivité dans le monde au féminin pour son nouvel album qui sort le 7 mars 2020. Chal Evet. Divan est internationalement reconnu pour sa mission mettant en exergue le lien, le pont entre diverses cultures et religions du Moyen-Orient à travers la musique. Les cinq femmes sont originaires d'Inde, d'Iran, d'Europe et d'Amérique latine. Le groupe musical de Galit Dardashti interprète des chansons religieuses qui ne sont pas traditionnellement chantées par les femmes.
C'est un véritable honneur de pouvoir continuer cette tradition musicale. J'ai commencé à chanter avec ma famille quand j'étais très jeune, mais l'approfondissement de la tradition musicale persane ne s'est produit que lorsque j'étais à l'université et que je voulais en savoir plus sur mon histoire familiale. Ce fut une période vraiment excitante pour moi de pouvoir pour la première fois me connecter à une partie de la musique que mon grand-père et mon père avaient chantée en Iran.
Le nom de votre groupe est Divan et il est composé essentiellement de femmes.
Oui, nous avons commencé un groupe exclusivement féminin il y a plusieurs années. Au début, ce n'était pas vraiment une décision prise consciemment de n'être que des femmes, mais une fois que nous avons commencé à jouer ensemble, il était clair que c'était quelque chose de spécial et de très puissant. J'ai grandi ici aux États-Unis dans une tradition juive égalitaire où les femmes chantent. Mais quand j'ai commencé à jouer cette musique du Moyen-Orient, j'ai reçu des réactions très fortes de la part des spectateurs car les femmes ne jouent généralement pas cette musique. Des gens qui venaient d'Iran, d'Afrique du Nord me disaient « Waouh, tu sais, j'entendais mon chanteur chanter cette musique, mais je n'ai jamais entendu une femme et c'est incroyable et puissant. » Nous avons alors eu l'impression d'avoir quelque chose de spécial. Nous voulions donc continuer d'avoir des femmes interprètes, car c'était une expérience inhabituelle pour nous et pour le public.
Le nom de votre nouvel album est Chal Evet. Quel est le sens de ce mot et de quoi parlez-vous dans cet album?
Chal Evet means flame or blaze. Chal Evet signifie flamme. Pour diverses raisons, nous avons décidé de faire un autre album en tant que femme, en tant que musicienne, interprétant une musique qui met l'accent sur la culture partagée plutôt que sur ce qui nous déchire. Nous espérons faire la lumière sur ce genre de monde sombre dans lequel nous nous trouvions. Et je me suis soudain souvenu que je connaissais cette chanson Anouka que j'avais chantée quand j'étais enfant. Et vous savez, je n'y avais jamais vraiment pensé. Vous chantez des chansons quand vous êtes enfant sans penser aux paroles. Mais les mots étaient « Nous sommes venus chasser l'obscurité, nous portons la lumière dans le feu lointain et chaque personne, chaque lueur est petite, mais ensemble, notre flambée est infaillible. » Nous avons pensé que c'était un grand sentiment pour le titre de notre album. Nous voulions vraiment mettre l'accent sur cette culture partagée du patrimoine musical qui se produit naturellement à travers le Moyen-Orient. Shared culture of musical heritage
that naturally happens throughout the Middle East. We are going to listen. Nous allons écouter Amnemenei. Je pense qu'il y a un lien entre cette chanson et l'Afrique. Pourriez-vous nous dire un mot sur la chanson?
Yes, Amnemenei. The text was written by the most well-known.
Oui, Amnemenei, le texte a été écrit par le paysan marocain le plus connu. Un paysan est une personne qui compose et ou interprète des chants sacrés religieux puis ultimes. Le rabbin David Boussaglo était connu au-delà du monde juif en tant que chanteur. Les chanteurs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient représentaient cette culture commune car ils se dirigeaient de manière transparente vers le profane et le sacré. Il n'y avait pas de fossé majeur entre le sacré et le profane. Les gens vivaient confortablement dans ces deux mondes. David Boussaglo l'a représenté. Dans ce cas, il a pris la mélodie de cette chanson d'amour arabe et il y a écrit des mots sacrés en hébreu pour en faire une chanson Anouka. Les Juifs faisaient partie intégrale des traditions musicales du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et cette chanson représente vraiment cette connexion avec splendeur.
And this song really represents that connection beautifully.